Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un aller-retour entre la France et le Laos que nous propose aujourd'hui mon invité, à l'image du titre de son premier roman, Paris, Vientiane, qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade. Une fiction sans doute très inspirée de la vie de l'autrice, ou du moins ses origines, puisque, comme sa narratrice, elle aussi est née de parents réfugiés politiques laotiens. En tout cas, à travers l'histoire de plusieurs générations, c'est aussi l'histoire d'un pays qui se dessine sous nos yeux, une nation à la fois victime d'une guerre secrète meurtrière et dont pourtant l'une des expressions les plus courantes est « ce n'est rien, tout ira bien ». Bonjour Fanvilai Kent.
Bonjour Catherine.
Quel est le lien entre vous et Hortense, votre protagoniste ?
Hortense, elle est née à une période bien particulière de ma vie. Elle est née après une séparation douloureuse que j'ai vécue. Je pensais à l'époque que c'était le plus gros échec de ma vie. J'ai divorcé à 30 ans. Et à ce moment-là, mes croyances ont vacillé. Et donc Hortense est née à ce moment-là où je me suis demandé mais pourquoi j'étais si viscéralement attachée à la famille, en fait. Comment j'en suis arrivée là ? Et c'est à partir de ce moment-là où l'idée d'écrire a émergé, et l'histoire, puis cette Hortense justement, et puis sa vanne.
Hortense qui vous ressemble donc ?
Oui, bien sûr.
C'est donc une jeune trentenaire qui, comme vous venez de le dire, à cause de son divorce, se retrouve hébergée par sa tante Savane, avec laquelle elle va dialoguer, et au fil des jours... Découvrir un passé douloureux, rarement évoqué jusqu'ici. Est-ce que vous aussi, vous ne saviez pas grand-chose du passé laotien de votre famille ?
Oui, je dirais que j'ai grandi quand même dans cette culture laotienne qu'on m'a inculquée dès le plus jeune âge. J'ai vécu effectivement jusqu'à mes 3 ans avec ma grand-mère qui m'a appris le Laos. Je ne parlais que laotien jusqu'à mes 3 ans. Et puis je suis arrivée à l'école et je comprenais le français, mais j'ai dû me mettre à parler français. Et donc j'ai vraiment baigné dans cette culture que j'ai toujours connue. Mais étrangement, je ne connaissais pas grand-chose du pays. Qu'à travers en fait ce que mes parents me racontaient ou vous voulez bien me raconter. Cette langue, ces traditions qu'on avait aussi et qui ont été... importé en France, mais pas plus que ça, non, de base.
Donc, dans la famille, on ne se racontait pas les histoires d'où on venait et pourquoi on était parti.
Tout à fait. Ouais, je dirais qu'on était plutôt sur une histoire d'intégration. On voulait absolument s'intégrer plutôt que de se questionner.
Néanmoins, donc, elle va découvrir que Savane, la sœur de Savane, la mère et un petit garçon, d'ailleurs recueilli en cours de route, on fuit le Laos dans les années 70. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler pourquoi toute une partie de la population a dû quitter le territoire ?
Alors effectivement, il y a eu l'arrivée des communistes en fait au pouvoir. Et à ce moment-là, il y a eu une forte répression. Et c'est ainsi que la famille en fait a pris la décision de quitter le pays à ce moment-là.
Parce que les gens étaient en danger ?
Tout à fait. Oui. En danger de mort, moi j'ai appris par la suite en fait que... Des membres de ma famille ont été dans des camps de rééducation. Et de ces camps de rééducation, n'ont pas survécu. Et donc, il y avait vraiment cette oppression-là que ma famille a décidé de fuir.
Comme Hortense, d'ailleurs, qui découvre qu'un de ses oncles a été arrêté, envoyé dans un camp de rééducation qui, pour la plupart du temps, devenait un camp de la mort, parce qu'en effet... On n'en revenait pas. Donc ça veut dire, Fanvilai Kent, que vous aussi, il a fallu attendre quoi, la trentaine pour découvrir ce pan tragique du passé familial ?
Il a effectivement fallu attendre la trentaine pour que je me pose des questions. Comme je vous disais, c'est vrai que je me suis dit, mais comment j'en suis arrivée là ? Et je suis partie un peu à la quête de mon identité, de qui j'étais. C'était comme un peu une thérapie, finalement, au début. C'était très... très introspectif, très personnel, très intime. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était bien, bien plus grand, bien au-delà. C'était mon histoire, mes racines, en fait, d'où je venais. Et comme Hortense, moi, j'ai dû aussi aller à la découverte de ce pays, le Laos, directement. Et étonnamment, en fait, j'ai connu ce pays donc, au Laos, mais aussi en France, en en parlant à mes parents à un moment. Donc j'ai baigné dans la culture. Au final, la découverte a été pas très linéaire, mais on va dire cohérente dans l'ensemble, puisque j'ai baigné donc, dans cette culture. Après, je suis partie au Laos pour découvrir ce pays que j'ai adoré. Et je suis revenue, et c'est en écrivant au final et en interrogeant mes parents sur ce pays que par la suite, j'ai appris beaucoup plus de ce passé et de ses racines.
Alors, on va parler dans un instant, en effet, de ce magnifique voyage que vous avez fait et que vous racontez ici dans le roman Paris Vientiane. Je m'arrête un instant sur cette relation pleine de tendresse, d'amour réciproque, d'admiration entre Hortense et sa tante Savane. Et en même temps, quand Hortense décide d'aller au Laos, donner des cours dans le cadre d'une association humanitaire, sa tante Savane ne semble pas du tout accepter cette décision et elle pense, je vous cite, « c'est comme détruire leur ouvrage, renier une grâce, déjouer l'histoire ». Fermez la parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce rejet du retour ?
En fait, je pense qu'il faut comprendre que ma famille a quitté ce pays par peur. Peur de l'oppression, peur de la mort, peur pour aussi leur avenir. Donc pour eux, c'était une chance. Ils ont toujours cru que partir d'abord en Thaïlande dans des camps de réfugiés, puis ensuite avoir l'opportunité de rejoindre la France, c'était une énorme chance pour eux. Et revenir, c'était comme renier cette chance, comme je l'ai écrit. Donc c'était... ils avaient peur, pour moi, je pense, à ce moment-là, que le passé ressurgisse, que je sois en danger. En plus, donc effectivement, ce voyage-là a lieu à Vang Vieng, donc dans un coin aux confins du triangle d'or asiatique, donc avec toute l'histoire qu'il peut y avoir de prostitution, de drogue à l'époque. Et donc ils ont vraiment eu cette peur-là, et dans un premier temps, je pense. L'autre chose, c'est aussi qu'ils n'avaient jamais voyagé seul comme ça, en fait. Je pense que Hortense, ou même moi, quelque part, on avait envie de cette transgression, en fait, pour pouvoir grandir et pouvoir vivre en dehors de ses pères, qui a été plus forte et pas forcément comprise au début. Et puisqu'on ne voyait dans ma famille, on ne voyageait pas forcément seul dans ce cadre-là, il n'y avait pas cette notion-là. Donc c'était aussi pour Hortense une manière, elle, de s'émanciper de la société, de sa famille aussi, de ce qu'il projetait.
Un affranchissement, en effet. De la même façon que c'est comme si il fallait refermer la porte sur le passé douloureux pour avancer, mais c'est oublier que parfois le silence devient trop pesant et peut-être empoisonne le corps et l'esprit, n'est-ce pas ?
Oui, complètement. Il y a effectivement, à travers le roman, on a cette notion de silence qui... le silence est parlant, finalement.
Mais c'est lié à quoi ? À la tragédie, au traumatisme ou à la culture laotienne, vous diriez ?
Je dirais un peu des deux. Quand vous parliez de la guerre secrète, par exemple, il y a eu un silence déjà dès le début de cette guerre-là, qui a été classifié, dont on n'a pas voulu parler. Donc il y a eu cette indifférence, finalement, qui a beaucoup affecté ma famille, potentiellement. Qui, quand ils sont arrivés en France, c'était justement cette notion de s'intégrer, de ne pas parler et de ne pas faire de bruit pour pouvoir s'intégrer. Et c'est resté un peu dans notre culture, dans notre manière de faire, d'être, de manière insidieuse parfois. Ça a aussi ses bénéfices. Parfois, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Mmh. Tout peut se jouer dans un regard, dans un geste. Mais ce silence, il peut aussi être très étouffant.
Et d'où cette expression « ce n'est rien, tout ira bien ».
Oui, « bo pen yang ».
C'est la prononciation en laotien ?
Exactement.
Alors, on va continuer de parler de ce très beau premier roman « Paris Vientiane » avec vous, Phan Vilay Kent, dans un instant, et aborder le Laos tel que Hortense et vous-même l'avez découvert, reparler de cette guerre secrète qui pèse énormément aussi sur la famille. Mais pour le moment, je vous propose une pause musicale. Alors, qu'est-ce que vous choisissez?
La musique « I know mutton have enough ».
Oui, ça c'est Diana Ross.
Ouais, de Diana Ross. Oui, si
alors, on écoute Diana Ross.
Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
No wind, no wind, no rain,
no rain.
Oh, winter's cold, can't stop me, babe.
Oh, babe,
baby,
baby.
If you're my goal.
Oh,
no wind.
Bien, à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui l'écrivaine Fonne Villaï-Kent, dont le premier roman vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès sous le titre Paris Vientiane, qui est la capitale du Laos, donc le pays d'origine de la narratrice Hortense et de notre invitée. Hortense qui décide de se rendre là-bas quelques semaines pour enseigner. Et vous aussi, vous avez fait ce voyage, n'est-ce pas? Racontez-nous.
Oui, donc effectivement, quand Hortense décide de partir au Laos, elle va d'une manière assez précipitée, mais elle a vraiment envie de partir, elle a vraiment envie de retrouver ses racines. Et donc elle arrive là-bas dans un éco-village où elle doit apprendre l'anglais à des enfants et aussi participer à la vie de l'éco-village. Et donc elle découvre aussi un pays qui est très joyeux finalement, qui a plein de saveurs, elle apprécie toutes les facettes de ce pays-là qu'elle connaissait qu'à travers ses parents finalement, mais qu'elle retrouve là-bas. Et très vite, elle se trouve confrontée quand même à une autre réalité sur place, c'est-à-dire qu'on lui dit de ne pas forcément parler de politique, on lui dit de ne pas parler d'économie non plus, que ça ne se fait pas là-bas. Et c'est là où elle se rend compte qu'en fait, elle qui considère être... dans Paris Vientiane, comme ce trait d'union-là entre deux mondes, elle te dis que là-bas, c'est différent. On ne pense pas pareil.
Est-ce que pour vous, c'était une première aussi, d'aller au Laos ?
Non, c'était la deuxième fois. J'y suis déjà allée une fois, mais la première fois seule, oui, c'était à 30 ans, comme Hortense.
Et sur place, vous avez retrouvé des sensations ? Comment ça s'est passé ?
Là-bas, c'est comme si je me sentais chez moi aussi là-bas, alors que je me sens absolument française aussi aujourd'hui. Et c'était plus le regard des autres qui me surprenait que moi-même, comment je me sentais là-bas. Là-bas, bien sûr, les paysages sont époustouflants, les personnes rencontrées ont été extrêmement gentilles. Enfin, on a cette image aussi du Laos qui existe dans l'imaginaire collectif et qui est réelle. Mais on a aussi, j'ai aussi rencontré le fait d'être différente. J'étais issue d'une famille qui a fui le pays et on m'en voulait pas tant que ça. Enfin, il n'y avait pas de reproches, mais j'étais différente d'eux. Je n'étais pas laotienne par définition et ni française aussi. J'étais un peu des deux.
Peut-être pour bien sentir l'atmosphère, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre roman? Qui est justement le début du carnet de bord d'Hortense quand elle arrive dans la province de Vang Vieng et qu'elle partage avec le lecteur, la lectrice, ses premières impressions. On vous écoute.
Je prends enfin le temps d'écrire. Après 12 heures de vol, j'atterris en Thaïlande, au pays du sourire, 5 fuseaux horaires et un univers plus loin. Il n'y a pas de vol direct pour rejoindre Vientiane, la capitale du Laos. Alors j'embarque dans un autre avion. À la sortie de l'aéroport, je me retrouve au milieu de nulle part, sans building ni tarmac à l'infini. La ville balbutie. Dans ce pays en forme de botte de l'Asie, le vent semble chaud et clément. Le pouille bat doucement. J'étouffe en jeans basket en attendant le minibus qui doit me conduire jusqu'au village dont j'avais noté l'adresse sur un bout de papier. Le chauffeur arrive une heure plus tard que prévu et me lance un immense sourire. Je lui signifie son retard en lui montrant ma montre. Il reste imperturbable, Popenyang. Je paye mon ticket, il s'incline en joignant les mains. Je suis trop épuisée pour répliquer. Je l'imite, puis m'engouffre dans le véhicule qui tressaute sur les nids de poules jonchant le trajet. Le paysage défile à mesure que la nuit tombe. 20 heures après avoir quitté Paris, mes paupières peinent à rester ouvertes lorsqu'enfin le chauffeur me dépose à l'orée d'une forêt. Il lève son pouce pour signaler que je suis au bon endroit. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas oublié de s'arrêter, relève un passager visiblement habitué. On est loin des taxis parisiens. Je pense à Tristan qui n'aurait jamais choisi ce type de voyage et je souris avant de m'aventurer dans un jardin qui ressemble davantage à une jungle. Au loin, une lumière s'allume. Je chasse les moustiques qui convoitent mes bras. Une pellicule poisseuse épaissit ma peau. Je ne suis pas encore habituée à cette chaleur moite, l'air brûlant, étouffant. Caniculaire pour Paris, ordinaire pour ici. Je frappe à la porte d'une maison, un ensemble de morceaux de bois récupérés et enchevêtrés. Un enfant habillé en joueur de foot m'ouvre. Il me décoche un large sourire et appelle sa mère qui m'accueille comme si elle me connaissait déjà. Je me présente dans un laotien approximatif qu'elle saisit et je m'installe sans poser de questions dans une dépendance attenante. Le lit composé d'un maigre matelas et d'une structure à ressort grince sous mon poids. L'agencement est rudimentaire. Des bruits inconnus venant de l'extérieur taquinent mon imagination. Je me mets à rire nerveusement. Qu'est-ce que je fous ici ? Et puis je finis par m'allonger. Mes pensées vagabondent. Le calme et le sommeil l'emportent. Je me sens bien. Je ne sais pas vraiment où je suis, mais c'est exactement là où j'ai envie d'être.
Merci beaucoup pour cette lecture. Vous disiez tout à l'heure que, et Hortense d'ailleurs le dit, à la fois je ne suis pas d'ici et je ne suis pas d'ailleurs. Ici, je suis des deux, un trait d'union. Donc vous aussi, vous avez eu cette sensation d'être un trait d'union entre les deux cultures ?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'étais imprégnée en fait des deux cultures. Et pour moi, je ne faisais pas de différence. Je ne suis ni d'origine laotienne, ni française. Enfin, si, je suis française, mais je ne suis pas particulièrement d'une origine ou d'un pays particulier. Je suis un peu des deux, oui, c'est vrai.
Et est-ce que vous avez envisagé éventuellement, ce que ne fait pas Hortense d'ailleurs, mais d'y rester plus longtemps, voir si vous pouviez y vivre, par exemple?
Pas forcément. C'est vrai qu'il y a une certaine décontraction dans ce pays, une manière de vivre assez paisible. Vraiment, on vit le pays, le cœur du pays est le Mékong, par exemple, qui est le fleuve qui longe le Laos. Et on ressent ce calme, on ressent cet apaisement quand on y est. Et j'ai adoré vraiment profondément visiter ce pays. Je me suis sentie très bien. Mais c'est vrai qu'économiquement et aussi socialement, il y a toujours des difficultés qu'on ressent. Et je me sens mieux en France. Je me sens chez moi aussi en France.
Alors, sous ce calme au Laos, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de grandes cicatrices, hein. Et par exemple, on va apprendre avec vos protagonistes et paradoxalement avec un homme qui n'est pas du Laos, mais qui raconte à Savane que le Laos a été la cible donc de cette guerre secrète menée par la CIA, les États-Unis donc, qui ont largué sur le pays plus de bombes, je vous cite, que sur le Japon et l'Angleterre réunis pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ce chiffre terrifiant. Entre 1964 et 1973, on parle de 2 millions de tonnes de bombes, 24 heures sur 24, soit une explosion toutes les 8 minutes. Est-ce que tous les Laotiens, sur place ou expatriés, ont eu connaissance de l'ampleur de cette tragédie ?
Non. Non, et c'est ça aussi le drame, en fait. C'est que je pense qu'ils ont vécu les conséquences de la guerre sans forcément qu'on leur ait expliqué à un moment. Et c'est là le plus tragique, en fait, c'est qu'ils ont dû fuir un pays, ils ont dû partir à des âges plus ou moins jeunes, sans connaître cette vérité, sans savoir pourquoi. Et d'où le silence peut-être dont on parlait.
Donc ils ne savaient pas pourquoi ils étaient bombardés, et certains qui ont pu partir pour sauver leur vie n'ont peut-être pas eu connaissance de l'importance de ces bombardements.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que à ce moment-là, justement, cette guerre découle de la guerre du Vietnam. Et le Laos n'était pas en guerre contre les États-Unis ou d'autres pays. On avait traité, il y avait un accord qui a été signé, un accord de paix. Donc c'était une guerre clandestine finalement. Et puis il y a aussi peu d'informations qui circulaient au Laos. À ce moment-là, il n'y avait pas de radio, pas forcément de télévision, pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y avait un manque d'informations qui était crucial.
C'est vraiment un pays dont on a, je ne sais pas comment dire, mais occulté l'histoire officielle. Et il a fallu attendre, c'est ce qu'on découvre en vous lisant, que Barack Obama, le premier président des États-Unis, viennent sur le territoire pour enfin reconnaître une partie de la faute. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un chantier de déminage, évidemment, 60 ans après, toujours d'actualité, avec 80 millions de bombes endormies. C'est un sujet tabou, ça, gardé sous silence, ou c'est de notoriété publique au Laos ?
C'est bien visible au Laos parce que ça crée encore beaucoup de dégâts, de décès, de morts.
Vous voulez dire des bombes qui explosent comme ça ?
Des bombes qui explosent, exactement. C'est des bombes à sous-munitions qu'on appelle des bombises, qui sont encore enfouies dans les terres du Laos. Par exemple, la plaine des Jarres, qui est même un patrimoine mondial de l'humanité, est aussi infestée de bombes aujourd'hui. Et pourtant, il est visité. Mais il y a une partie qui n'est pas autorisée au public parce qu'il est encore infesté de bombes. C'est de notoriété que ça s'est passé, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de notoriété autre part, ailleurs, en fait, que dans le pays. On vit avec ces bombes maintenant dans le pays. Et il est dit aussi qu'à l'allure où ça va, presque 2000 ans pour déminer entièrement le Laos.
Sachant qu'un personnage, en effet, dit qu'on n'est pas censé en parler ni critiquer le gouvernement. Donc, encore aujourd'hui, il y a une liberté d'expression qui est très relative.
Complètement. Enfin, quand on regarde l'actualité, la liberté d'expression est encore très réprimée aujourd'hui. En fait, c'est, j'ai pas voulu en faire un livre politique, mais c'est des faits. En fait, c'est très factuel aujourd'hui dans ce pays qui est un des derniers pays communistes du monde. Il y en a 5 avec la Chine, la Corée du Nord, Cuba et le Vietnam. Il y a le Laos aussi où la liberté d'expression est bafouée aujourd'hui.
D'où la nécessité effectivement d'en parler et de montrer aussi toute la richesse de ce pays oublié, mis de côté à l'ombre de ses voisins sans doute, alors qu'il y a une culture si belle et à découvrir. Hortense est architecte, elle crée des espaces comme des refuges. Et vous, c'est où votre refuge? C'est quoi votre refuge, Von Willeichen?
Aujourd'hui, mon refuge, je pense que c'est moi-même. J'ai eu du mal à le trouver, j'ai eu du mal à me dire ça. On cherche souvent où se réfugier, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se sentir bien partout, mais en étant bien aussi nous-mêmes.
Est-ce que l'écriture est devenue un refuge?
Absolument. Absolument, oui, ça s'est imposé à moi. Je n'avais pas forcément de vocation à être écrivaine de base. Et je ne viens pas d'un milieu littéraire, ma famille non plus, même s'ils ont toujours pensé que c'était un vecteur, l'éducation était un vecteur d'intégration, de réussite. Ils m'ont toujours emmenée dans des bibliothèques. Voilà, j'ai toujours lu, j'ai toujours adoré ça. Mais aujourd'hui, oui, ça s'est imposé à moi. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un refuge. Oui,
mais d'une certaine façon, je ne sais pas si vous teniez des carnets, vous aussi, au Laos. Mais je me demande si ce n'est pas aussi ce voyage qui a peut-être favorisé en vous l'émergence ou le désir d'écrire.
C'est l'histoire de ma famille aussi. C'est vrai qu'il y avait peu d'écrits sur le Laos. Quand j'ai cherché à comprendre l'histoire, justement, que je me suis intéressée, que je suis allée sur place, je me suis rendu compte que... Il n'y avait pas forcément de livres dessus. Et j'ai questionné aussi ma famille. J'ai questionné ma famille et j'ai découvert aussi que des personnes ont écrit aussi des carnets en fait, qui existaient et qui ont disparu.
Qui ont été brûlés.
Qui ont été brûlés. Et j'ai trouvé ça révoltant de ne pas pouvoir les lire aujourd'hui. Et ce qui m'a peut-être inconsciemment aussi poussée vers l'écriture, c'est de retracer ce passé-là, en fait, et de faire revivre quelque part ces carnets.
Un devoir de mémoire, peut-être aussi, et faire un pont entre la France et le Laos. Je ne me rends pas compte, est-ce qu'au Laos, il y a une francophilie encore, une francophonie, ou pas plus que ça? Ma question étant, est-ce que vous pourriez être lu là-bas dans cette version sans passer par une traduction?
Le français était appris à l'école quand le Laos était sous protectorat français. Donc c'est un pays qui est francophone, je dirais. Donc effectivement, plus les anciennes générations parlent encore français. Et le français est encore étudié à l'école.
Donc ce livre pourrait circuler au Laos.
Donc ce livre pourrait circuler au Laos, je pense.
Et aller à Vientiane,
par exemple.
Merci beaucoup. Von Willeichen. Je rappelle donc le titre de ce premier roman qui vient de paraître dans la belle collection La Grenade aux éditions Jean-Claude Lattès, Paris, Vientiane.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.